Document audio issu du site www.triarticulation.fr. On y trouvera le document complet. Voix de synthèse. À qui appartient la Terre? La lutte pour un droit du sol moderne. Par Christophe Strave, publié en février 2007, le texte suivant est rédigé d'après les notes d'un exposé fait pour la fête des 5 ans d'existence de la Fondation TRIA, Fondation d'intérêt commun pour sol, écologie et habitat. Première partie. Tout travail de changement fourni en petit, par toujours d'images directrices, c'est de visions dont nous parlerons volontiers aujourd'hui. Nos images directrices nous donnent la direction, nous prenons dès l'orientation de notre parcours. Par nos images directrices, nous nous insérons dans un ensemble d'humains plus vaste, qui cherche des changements sociaux dans une direction identique ou semblable. De ce fait, le travail sur les images directrices, le travail sur les pensées, est important aussi pour les discussions quotidiennes. Qu'est-ce qui nous guide, lorsque nous demandons un droit d'usage du sol moderne? Le point de départ est la question, de ce que signifie après tout le sol pour l'humain. Le sol est ce qui porte l'humain, et il définit aussi par là les conditions de toutes les activités économiques. Le sol est incarnation pour la nature, qui nous couvait nourri, Friedrich Schiller a nommé la terre sol maternelle. Il se transforme le rapport des humains au sol dans l'histoire. Le rapport de l'humain à lui-même, aux autres humains et à la nature en rapport avec le sol, se transforme surtout dans l'histoire. Et c'est pourquoi, nous demandons tout à fait consciemment, après un droit d'usage moderne du sol, à la mesure de notre temps. Si nous regardons vers le passé, il y avait alors toujours, dans les anciens rapports culturels, la conception que le sol est quelque chose que l'on a reçu, offert par les puissances divines, et à cause de cela, parce qu'on l'a reçu offert, il ne pouvait appartenir en privé. On ne peut que l'administrer fiduciairement. Nous trouvons dans le passé des formes variées de propriétés communes, quelques-unes d'entre elles se sont maintenues en de derniers restes jusque dans les temps récents, tels les biens communaux, la propriété commune villageoise. Et nous trouvons, comment le sol par exemple, est administré fiduciairement en ces temps par un prince urbain sumérien, et dans la conscience d'une charge divine. Là où la conscience de soi humaine devient plus forte, ou des impulsions personnelles, commencent à apparaître dans l'humanité, alors nous obtenons, comme l'ombre de cette individualisation, un problème d'égoïsme qui n'était pas là auparavant, alors, nous arrive d'avoir affaire avec ce que le sol, n'est plus administré comme un cadeau, mais que l'individu essaie de tirer à lui des avantages de l'utilisation du sol. Et il apparaît la conscience, qu'à cet endroit, une correction est toujours à nouveau nécessaire. Ce que nous trouvons dans le vieil Israël comme l'année jubilaire, tous les 50 ans, le sol est rendu, les dettes sont remises et les esclaves libérés, montre cette conscience. Mais cette conscience s'obscurcit toujours plus, et ainsi nous entrons dans des rapports, où sont conduits de grands combats autour du sol entre les détenteurs de fonciers, et ceux qui sont dépendants d'eux. Nous trouvons cet affrontement à beaucoup d'endroits dans l'Antiquité. Solon essaie de corriger ses inconvénients pour Athènes avec ses réformes. Dans l'ancienne Rome, il y a des réformateurs fonciers, qui essaient de partager à nouveau la grande propriété foncière. Mais finalement, cette question n'est pas résolue. À Rome apparaît le concept de propriété, qui est déterminant encore aujourd'hui, le concept de propriété privée. La propriété privée n'est pas en soi quelque chose de mauvais. L'apparition de la propriété privée dépend de ce que l'humain individuel, plus il devient conscient de lui-même, veut aussi décider lui-même sur le sien. Il est intéressant que le privare signifie deux choses en latin, dépouiller et libérer. On vit comme une libération de pouvoir décider soi-même, par exemple, par-delà la mort, de faire valoir ses volontés dans un testament, cela ne valait naturellement que pour ceux qui avaient le droit à cela, pas les esclaves, pas les femmes et ainsi de suite, parce que l'on puisse décider soi-même, on exclut aussi en même temps d'autres de la décision, on les dépouille de la décision. La propriété privée a ses deux côtés. Ce droit romain, ce droit de propriété, s'instaure toujours plus à partir du XIIe siècle en Europe, après que le droit germanique ait longtemps valu. Nous atteignons les temps modernes, où des biens d'église sont sécularisés dans la réforme et que les princes, qui ont toujours des besoins d'argent, se servent, où des conditions à se développer commencent, qui alors culmineront à la fin du XXe, et au début du XXIe siècle, note du traducteur, en France un phénomène ressemblant se déroule probablement, par la confiscation des biens du clergé pendant la Révolution, mais au profit de la politique des Jacobins voulant s'assurer une base électorale de nombreux petits propriétaires paysans, mais se soldera par une accumulation entre les mains de la bourgeoisie citadine. Nous devrions réaliser ce qu'il a dans les temps modernes apparaît comme impulsion. À la recherche de critères pour un droit du sol moderne, nous devons réaliser ce qui dans les temps modernes apparaît en fait comme impulsion. Il y a trois grands mouvements avec lesquels nous avons affaire. D'un côté apparaît l'individu, qui auparavant ne rentrait plus ou moins en considération que comme membre de la communauté du moment, qui sort alors de la communauté et expérimente « je suis un humain pour moi-même, je ne me définis plus en premier par la communauté, je ne me laisse plus limiter et régenter par elle ». Un Martin Luther se place devant le Parlement de Worms et explique « je me tiens ici, je ne peux autrement ». Vous pouvez expliquer ce que vous voulez avec l'autorité de vos clercs, pour moi ce n'est pas ce qui donne la première mesure, j'en réfère à mon jugement propre et à ma conscience. Cela n'est pas qu'un acte significatif historiquement, mais un symptôme pour un changement d'attitude, qui se repenchait toujours plus d'humain. La question de la formation du jugement de l'individu d'après sa liberté, émerge dans la modernité. Et dans ses conséquences apparaissent, toutes les questions qui y sont liées, que l'individu ne veut pas seulement choisir lui-même sa confession, mais aussi l'école pour ses enfants, le médecin et ainsi de suite. Toutes les facettes de l'orientation de vie deviennent toujours plus fonction de choix et décisions personnelles. Jusqu'à aujourd'hui nous occupe le thème de comment en fait une culture peut-elle apparaître, qui repose sur la liberté de l'individu, ou dit autrement, comment une vie spirituelle libre peut devenir possible. La question d'une vie spirituelle libre est la première question qui est posée par l'impulsion moderne de majorité, note du traducteur, dans le sens de majeur, adulte et donc d'autonomie vis-à-vis de ce qu'on appellerait le père dans d'autres référentiels. Mais l'impulsion de liberté a en même temps pour conséquence que la liberté de l'autre entre aussi en compte. Chaque humain a la même liberté, et ainsi se dégage l'aspiration à l'égalité de l'aspiration à la liberté. Le thème de la démocratie et des droits humains devient nécessaire à cause de cela, la question du même espace libre pour chaque individu, et en même temps la limitation de la liberté de l'un par la liberté de l'autre et sa reconnaissance. Alors, un troisième mouvement est là, dans le passé de l'humanité, il y avait une vie économique, qui était empreinte d'autosubsistance. Avec la modernité, nous arrivons dans une économie qui repose entièrement sur la subsistance par l'autre. On a dit que si l'on voulait comprendre la vie économique moderne, alors on devait méditer son petit déjeuner. Faire cela en toute conséquence durerait trop longtemps ici. Mais il suffit déjà de penser brièvement comment le café vient dans la tasse pour établir qu'extraordinairement beaucoup d'humains à extraordinairement beaucoup d'endroits de la Terre, lors de la culture, du transport, de la transformation et ainsi de suite, doivent travailler ensemble, pour que ma tasse de café vienne. À la caisse scannée du commerce de détail, où j'achète le café, ne se trouve pas seulement le travail présent d'humains vivants, mais un savoir-faire, auquel les humains des générations disparues ont contribué. D'un côté l'individu devient autonome et indépendant dans la modernité, de l'autre côté nous arrivons dans une dépendance universelle des humains, les uns des autres en un réseau de relations de partage du travail. Cela nécessiterait pour l'économie que nous façonnions aussi ce travail pour autrui consciemment, afin que nous nous mouvions aussi avec notre mentalité, avec nos institutions sociales vers les hauteurs de l'économie de subsistance par autrui. Mais cela n'est, comme nous le savons, que partiellement ou souvent pas du tout le cas. Sous bien des aspects, La mentalité est toujours celle de l'autosuffisance. On se consacre à la division du travail seulement, pour tirer des avantages pour soi, mais ne faisons pas du travail en commun le thème de la gestion. Mais en cela, on contourne les questions factuelles de l'économie moderne, comment pouvons et devons-nous nous servir mutuellement? Que pouvons-nous fournir à l'autre? Comment arrivons-nous à une économie équitable avec des prix justes? Comment formons-nous les conditions de travail en commun par branche et région? En bref, comment est-ce que ce qui est exigé dans la division du travail, fraternité, solidarité, se laisse-t-il modifier et former? Qu'est-ce qui se présente comme exigence pour un droit de propriété moderne? Quelles exigences se présentent-elles des trois sortes de problématiques pour un droit de propriété moderne? Il doit considérer les points de vue de liberté, d'égalité et de solidarité dans un équilibre. Le point de vue de la liberté exige que l'individu puisse disposer librement de la propriété personnelle, et en même temps pouvoir développer de l'initiative dans le monde de division du travail. Rudolf Steiner parle de la propriété, comme d'une formation corporelle sociale. Si l'on ne peut disposer, alors on ne peut aujourd'hui pas du tout agir dans la socialité, on n'aurait pas d'organes pour cela. Cela ne s'accorde pas avec des formes de propriété tutélaire et collectiviste du passé. Nous avons besoin de la disposition entrepreneuriale des moyens de production, avec lesquels des biens industriels sont fabriqués, ou à la terre, avec laquelle les aliments pour les autres sont produits. Ce n'est de toute façon pas une disposition privée, là où la propriété est vouée à la socialité, elle sert le lien social. Le droit de propriété doit promouvoir la liberté dans la responsabilité sociale. Dans cette mesure intervient le point de vue de la solidarité. Intervient cependant aussi l'idée d'égalité, chaque humain a le même droit d'habiter la terre, et d'avoir part à ses fruits. Ce n'est naturellement pas pensé, que nous partageons la terre littéralement en des parts égales, et donnons à chaque humain une telle part. Ce serait un reculant des conditions étroites et d'autosuffisance. Comme peu de paysans nourrissent tous les autres humains, chacun ne doit pas disposer de la même surface en tant que tel. Mais comme chaque utilisation exclut les autres d'une parcelle de terre donnée, l'exigence d'égalité implique une compensation, un équilibre d'utilisation justement mesuré. Nous trouvons un lien social de la propriété dans notre loi fondamentale à l'article 14. Mais en même temps, nous avons un 903 du Code civil, qui renforce le concept romain de propriété, le propriétaire dispose de manière essentielle de la chose sans limitation, indifférent et qu'il s'agisse d'un contexte d'utilisation personnelle, ou d'entreprise avec des milliers de collaborateurs. Une entreprise est devenue un bien patrimonial vendable, et il en va de même pour le sol. De cette manière s'est formée la seulement moderne, céréales, betteraves sucrières, terre inconstructible. L'égoïsme comme ombre de l'individualisation. Pourquoi un droit de propriété et du sol moderne, dans le sens esquissé plus haut, n'a-t-il pu s'instaurer jusqu'à présent? Cela est certainement en rapport avec l'ombre qui s'étend sur les développements modernes, mais en même temps un bulletin de la lumière qui veut rayonner, l'égoïsme comme ombre de l'individualisation. Avant tout l'égoïsme de l'occupant du sol, a repoussé qu'un droit moderne du sol soit apparu, on peut le dire ainsi une fois tout banalement. Le fondateur de l'économie moderne, l'Écossais Adam Smith, établit lapidairement dans son célèbre livre de 1776, sur l'apparition de la richesse des nations, aussitôt que tout le sol est en propriété privée, les occupants du sol exigent une rente pour le rapport naturel du sol. Le bois de la forêt, l'herbe du champ et tous les fruits de la nature sur cette terre, que le travailleur, alors qu'elle appartenait encore à tous, n'avait qu'à collectionner et récolter, obtenait désormais pour eux un prix naturel. Il doit notamment à partir d'alors payer quelque chose pour obtenir l'autorisation pour récolter ses fruits, en ce qu'il donne au propriétaire du terrain, une part de ce qu'il a collecté ou fabriqué par son travail, mais cela signifie donc que seul l'occupant du fonds a, par la force de sa propriété, la possibilité de revendiquer pour lui une part des fruits d'un travail étranger, sans devoir travailler pour cela. Certes, l'économie et la socio-philosophie moderne partent de ce que la propriété apparaît à partir du travail individuel avec leur concept de propriété et la description de l'action libératrice de la propriété. Lorsqu'il est question dans les explications des droits de l'homme de la Révolution française, que la propriété serait un droit saint inaliénable, alors les constituants pensaient à la propriété apparaissant par le travail individuel. Mais c'est au plus ainsi comme cas, limite pour la possession de foncier et d'autres formes de propriété. Goethe l'a très joliment décrit dans un poème qui s'appelle Catéchisation. Professeur. Remarque, ô enfant. D'où sont ces dons? Tu ne peux rien avoir de toi-même. Enfant, et j'ai tout de papa. Professeur, et lui, là d'où? Enfant, de grand-père. Professeur, allons donc. D'où l'a donc eu le grand-père? Enfant, lui l'a pris. Enfant et fou disent la vérité. On doit seulement remonter assez loin, alors on bute sur le vol comme fait originel du partage de propriété. Méfiance dans les possibilités de l'humain, vivre la liberté dans la responsabilité. Que l'on ne trouve pas d'autre solution pour le problème tient à la méfiance dans les possibilités de vivre la liberté dans la responsabilité des humains entre eux. Ainsi croit-on ne pouvoir construire une économie moderne, que sur le motif de l'égoïsme, lorsque l'on ne stimule pas l'égoïsme, ainsi est le souci qu'alors la vie sociale arrive au marasme, qu'alors n'est plus rien entrepris économiquement. Adam Smith était parcouru par la conception que la division du travail multiplie énormément la richesse sociale. En même temps, il tenait l'intérêt personnel pour la seule motivation des humains faisant l'économie. Division du travail signifie faire quelque chose pour l'autre. Les égoïstes ne font tout d'abord pas quelque chose pour d'autre part eux-mêmes. On doit donc toujours les attraper à leur égoïsme et les appâter avec du gain. Afin que la quête du gain ne fasse pas éclater la société, on doit veiller à ce que les égoïstes soient toujours intelligemment mis en compétition. En cela, le butin ne devient pas plus petit, mais à l'essai de se le piquer mutuellement, les coups et prix sombres. Finalement apparaît derrière le dos des participants, comme animé par une main invisible, une répartition dans le sens d'une prospérité universelle, bien que chacun des participants n'étant vu que son avantage propre. La conception de l'humain faisant l'économie, le célèbre homo economicus, est l'utilisation optimisée d'un égoïste, et la concurrence apporterait nécessairement la prospérité commune, caractérise jusqu'à aujourd'hui une conception régnante multiple, que l'on devrait dépeindre non comme économie de marché, mais fondamentalisme de marché. Cette théorie est déjà hautement problématique à cause de son image de l'humain hautement problématique, mais en même temps extraordinairement géniale, et en cela à ne pas sous-estimer. Utilisée concernant le sol, elle devient assurément totalement non prégnante. Car sur un marché normal, on achète donc des biens pour de l'argent, lequel on a acquis de nouveau pour d'autres biens voire des services. On a donc, plus ou moins justement, plus ou moins déformé par toutes sortes d'influences annexes, quand même un échange de services. Mais ce n'est pas du tout le cas avec le sol, lorsque je n'ai plus besoin d'habiter ma maison, je la vends avec fonds et sol. Lorsque je ne cultive plus le sol, moi-même et mes enfants aussi, ne veulent plus faire d'agriculture, alors je le vends. En fait, on ne se laisse donc pas payer une prestation, mais au contraire une non-prestation. Ce n'est pas un échange d'équivalent. Et ainsi l'égoïsme peut à vrai dire agir, toutefois pas la concurrence. On peut demander, pourquoi a-t-on donc après tout pris cela en achat, alors que c'est en fait un élément qui n'est pas du tout conforme à l'économie de marché. Mais à cet endroit on doit voir que la vénalité du sol, si autant elle contredit pour autant un morceau de la conception de marché, a aussi contribué à la dynamique du capitalisme d'économie de marché. Cela survint en ce que l'on utilisa le sol, comme moyen de la création de crédit. Que l'on peut recevoir un crédit par une hypothèque sur fonds et sol, a mis en route une grande dynamique sociale, qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, se renforce même encore en partie. Nous avons un marché fictif devant nous avec le marché foncier. Mais parce que nous fondons la création de crédit largement, sur de telles sécurités illusoires, on s'arrange du marché fictif à peu de frais, sur le mode, finalement, il est quand même utile au développement économique. Et apparemment c'est aussi ainsi. Que l'on considère encore une fois, la situation en Union soviétique, et les autres pays en mutation après 1989. La vinrent les gens d'affaires de l'Ouest, et ils s'intéressèrent aux entreprises jadis collectivisées. Et alors, fut évalué, les bâtiments, les machines et installations, c'est vieilli et sans valeur. Mais la valorisation du sol, c'est comme une mine d'or. Là il fut difficile, de s'enflammer pour un nouveau droit du sol. Jetez aujourd'hui un coup d'œil vers Shanghai, ou d'autres régions chinoises en plein boom et voyez, ce que ma création de crédit sur hypothèque, a déclenché comme dynamique économique. Cela me semble un des fondements les plus essentiels pour lequel on ne s'est pas confronté vraiment au problème jusqu'à aujourd'hui. Toujours à nouveau il y a eu des mouvements, qui ont essayé, d'arriver à un ordre foncier juste. Toujours à nouveau il y a eu des mouvements en des temps récents, qui ont essayé d'arriver à un ordre foncier juste, et un ordre social juste. Là, le mouvement socialiste a une fois pris le thème fortement dans ses visées, la propriété privée c'est le vol, dit-il. Ce mouvement socialiste est alors tombé de toute façon dans le marxisme sur un concept de propriété, avec lequel il en va, de tout transformer en propriété collective. On n'a donc pas pris vraiment en considération, le côté initiative des formes de propriété moderne. Cependant, nous trouvons aussi quand nous prenons Marx en version originale, de très importantes remarques. Ainsi écrit-il par exemple, du point de vue d'une formation sociale plus haute, la propriété privée d'individus isolés à la boule terrestre, apparaîtra aussi tout à fait sans goût, comme la propriété privée d'un humain d'un autre humain. Seule toute une société, une nation, toutes les sociétés prises ensemble à un moment, ne sont pas propriétaires de la terre. Hélas ne sont que leurs occupants, leurs usufruitiers, et l'ont comme bon patre familia bon père de famille à laisser améliorer aux générations suivantes, nous avons hérité la terre de nos enfants, fut-il question plus tard dans le mouvement des Verts.